Cause commune. Paris Pluriel, 106.3.
Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Ce soir, une émission spéciale sur le nucléaire. Émission qui finira à 21h30. Je remercie d'ailleurs Zoom Écologie de nous avoir laissé leur temps d'antenne pour cette grande soirée. C'est donc bien l'émission Cause commune, émission d'échange et de débat sur un fait d'actualité. Nous avons sur le plateau Gianni et Nicole de Vive la Sociale, émission qui émet d'habitude le premier et troisième jeudi du mois de 19h à 20h30. Et il y a également Johan qui co-animera avec moi cette émission de Zoom Écologie. Tous les jeudis de cette émission se passe tous les jeudis de 20h30 à 21h30. Il y a Yves du Rendez-vous des auteurs les mardis de 11h à 12h. Rimso du collectif Contre l'ordre atomique. Joël de l'actualité des luttes tous les jours de 12h30 à 14h. Moi-même Gilles et Christian de Mode d'emploi les vendredis de 20h30 à 21h30. Et Julia à la technique de l'hebdo les samedis de 12h à 13h. Merci à eux d'être là. Donc, après Tchernobyl en mars 86 et Fukushima cette année, quelles leçons et décisions peut-on prendre pour éviter de recommencer le pire? C'est un peu le thème de cette émission. Je vous propose donc d'écouter d'abord l'intervention du président de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'était M. Desbordes qui va nous rendre compte de ce qui se passe là-bas. Je veux savoir d'abord votre sentiment général sur ce qui s'est passé à Fukushima.
Ah bien, c'est d'abord l'accident le plus improbable qui pouvait se produire dans une centrale nucléaire, puisque on est dans le pays le plus haute technologie au monde, et on pouvait penser que les Japonais, qui sont capables de fabriquer les appareils les plus sophistiqués, savaient maîtriser le nucléaire. Et donc, c'est pas de là qu'on attendait un accident grave. Il s'est produit, et donc c'est effectivement la première leçon à tirer. C'est que quel que soit le pays, la technologie nucléaire présente des risques qui sont très très difficiles, peut-être pas impossibles, mais en tout cas très difficiles à maîtriser.
Très bien. Alors, je vais savoir, parce que vous êtes resté en France, j'imagine, mais vous avez deux de vos collègues qui sont partis au Japon. C'est M. Bruno Charéron et M. Christian Courbon. Ils sont revenus en France depuis une semaine. Qu'est-ce qu'ils ont relevé là-bas sur place? C'est quoi les premiers résultats?
Alors, on n'a pas rédigé de rapport. Oui, effectivement, ils sont restés deux semaines là-bas. C'est le directeur du labo et le technicien de terrain. Et ils ont fait... D'abord, on est allé là-bas à la demande des Japonais. À la demande de qui? D'abord, des citoyens japonais qui s'étaient connectés par Internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 25 ans avec Tchernobyl. Et puis, c'était des associations, c'était des comités de quartier, etc. Donc, on était très attendus au Japon pour faire quoi? Faire des mesures dans l'environnement, parce que les Japonais, curieusement, n'arrivent pas à avoir des valeurs sur la radioactivité présente dans l'environnement, présente sur les sols, présente dans les aliments, et ce qui fait qu'ils ne savent pas exactement dans quel état se trouve leur environnement. Ça, c'est la première demande, parce qu'ils n'ont plus confiance aujourd'hui à leurs autorités, ni à TEPCO, l'exploitant. La première chose. La deuxième chose, c'était... de les aider pour créer quelque part une structure qui pourrait s'appeler la CRIRAD, évidemment qui ne s'appellera pas la CRIRAD, c'est-à-dire un laboratoire indépendant de mesure de la radioactivité, parce que au Japon ils découvrent que toute l'information elle émane de l'exploitant, elle émane de l'État, elle émane d'organismes officiels qui ont montré à cette occasion-là justement leurs mensonges, les défaillances, le manque d'informations, des informations tronquées, biaisées, etc. Et donc, ils découvrent ce que nous, on a découvert, la Kerala, il y a 25 ans avec Tchernobyl, eh bien que, oui, il y a un problème d'information et qu'il est indispensable, si on veut avoir l'information, de se doter, nous, les citoyens, en association, de se doter d'outils pour mesurer la radioactivité.
Alors justement, à propos de cette enquête qui a été menée sur place, au Japon par vos collègues, apparemment j'ai une information, alors peut-être que vous avez confirmé ou infirmé, hein, qu'il y aura un certain nombre de capteurs GGR qui ont été bloqués à la frontière.
Alors ce qu'on dit, ce qui semble être confirmé, là on n'en a pas la preuve, mais c'est qu'il y aurait entre 30 000 et 40 000 compteurs GGR qui sont bloqués à la douane de Narita, c'est l'aéroport de Tokyo, qui ont été envoyés par tout un tas de gens de pays, Canada, France, Angleterre, en aide aux Japonais. Parce que la première chose que les Japonais ont demandé aux étrangers, c'était d'avoir des compteurs GGR. Il y en a même, y compris pour l'ambassade de France, d'ailleurs, à Tokyo. Eh bien, les douanes japonaises ont beaucoup de réticence à dédouaner, à laisser passer ces compteurs. Et donc, il y a une interpellation qui a été faite la semaine dernière par une députée au Parlement japonais qui interpelle les ministres, en particulier le Premier ministre, en disant « mais comment se fait-il ?» Et là, c'est vrai qu'il y a des témoignages comme quoi le Premier ministre reconnaît qu'il y a bien ces compteurs, mais que c'est un problème administratif qui va se régler dans les jours qui viennent. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ces compteurs ont été débloqués, mais en tout cas, c'est une vraie info, ce n'est pas une rumeur, que les Japonais, le gouvernement japonais, n'a pas vu du tout d'un bon œil l'arrivée de compteurs étrangers. Alors, nous, évidemment, on savait un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'on est allé discrètement au Japon. On n'a pas du tout annoncé notre venue. Et on n'a pas eu de problème avec notre matériel, mais parce que je pense qu'on a été très discret. Si on avait annoncé un peu à l'avance notre arrivée avec tout nos matériels, on aurait peut-être, je ne sais pas, eu quelques problèmes. En tout cas, on ne peut pas l'affirmer.
Bien. Visiblement, le contrôle de l'information là-bas est très strict hein, par rapport à la catastrophe.
Absolument, l'information et les médias japonais sont vraiment infiltrés par le lobby nucléaire. Et ce qui est surprenant, c'est que avant de repartir du Japon, nos deux salariés, nos deux responsables Kerab, ils ont fait une conférence de presse à Tokyo. Eh bien, ils avaient invité tous les médias japonais et étrangers. Eh bien, sur les 25 médias présents, journalistes présents, hein, eh bien, il n'y avait que deux japonais. Ça veut dire que les médias japonais ne sont pas très curieux d'aller trouver de l'information auprès d'experts indépendants. Ça montre que les médias couvrent, je dirais, l'exploitant.
C'est là qu'on voit la solidarité via Internet, où on découvre quasiment tous les jours des vidéos, notamment de Tokyo dernièrement, avec des niveaux de contamination assez étonnants d'ailleurs.
Oui, mais ça c'est vrai depuis 3 mois maintenant. Ça fait 3 mois que la catastrophe a eu lieu. Eh bien, il y a une contamination de l'environnement qui date des premiers jours. Sauf que l'exploitant qui a perdu la main dès les premiers jours ne veut pas le reconnaître et il le reconnaît par petits bouts. Les Japonais, bon, qui sont pas plus idiots que les autres, hein, ils se rendent bien compte que on les mène en bateau depuis 3 mois. Donc il n'y a plus aucune confiance des Japonais dans leurs autorités. Dans l'exploitant. Donc, y a une défiance énorme. C'est pour ça que la demande, alors par Internet évidemment, parce que ce moyen-là existe, d'informations venant de l'étranger est énorme. C'est pour ça que nous, on a constaté que très rapidement, le site Internet de la Kerab, il était consulté par les Japonais. Évidemment, par les Français en premier, mais tout de suite, les Japonais derrière. Ça montre bien qu'il y a une demande de la part des citoyens japonais à avoir une information indépendante.
Alors, on parle de 20 millisieverts pour un homme, la dose normale pour un homme, hein, au niveau de la radiation. Donc, à Tokyo, dans ces environs, c'est quoi le niveau ?
C'est difficile de généraliser. Alors, quand on parle de 20 millisieverts, c'est pas la limite normale pour un homme. Pour un citoyen du public, la limite maximum annuelle, elle est de 1 millisievert. Sauf que en situation accidentelle, les normes valables en situation normale ne sont plus valables. C'est pour ça qu'on se... Les gouvernements, ça, il faut que le citoyen le sache, c'est qu'en situation accidentelle, on est prêt à obliger les citoyens à ingurgiter des doses supérieures. 20, voire plus, 50, voire 100. Les travailleurs qui, normalement, sont à 20 millisieverts par an, là, on a monté leur limite à 100, voire 200, voire 300. Donc, en situation accidentelle, les limites ne sont plus, elles sont fonction de la nécessité. Et la nécessité, c'est quoi ? Ben, c'est où vous évacuez les gens, et ça coûte évidemment très très cher, où vous laissez les gens vivre sur place. Et là, ils se reçoivent des doses. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que très loin de la centrale, c'est-à-dire à 80, 100 km, vous avez une contamination, pas dans toutes les régions, mais dans une direction au moins, c'est-à-dire en allant vers le nord, légèrement ouest, vous avez une contamination de l'environnement qui est très importante, et où les gens ne sont pas du tout évacués. Et le gouvernement leur dit quoi ? Ah ben, vous pouvez partir. Oui, mais si vous partez, vous ne touchez aucune indemnité. Et le choix qui est fait par le gouvernement, c'est un choix économique, purement économique, c'est-à-dire si on évacue à 50, 60, 80 km de la centrale, ça coûtera d'autant plus cher, et il y a un coût qui, évidemment, ne sera pas pris en charge par TEPCO, mais qui sera à la charge de la collectivité locale ou nationale japonaise. Et là, visiblement, les Japonais ne sont pas prêts à mettre de l'argent dans ce sens-là.
Alors justement, on pense que TEPCO a bien géré la crise, parce que dans le début de cette catastrophe, ils ont limité à 10 km la possibilité de fuir enfin la centrale. Ensuite, ça a été 20 km, ensuite 30. Vous nous parlez de 100 km, mais en fait, quelle est la limite où on ne risque plus rien en fait par rapport à ça ?
Ah mais on peut pas. La radioactivité ne s'est pas répandue en cercle autour de la centrale. Donc, quand on parle de 10, 20, 30, 50, 80 km, ça ne veut rien dire. Il faut parler de quelle direction. Or, la zone 10 km, c'est clair, elle est très contaminée. La zone 20 km, aussi. Elles ont été évacuées trop tardivement, alors qu'elles étaient déjà très contaminées, ces zones. Donc, on a évacué les gens, mais trop tardivement. Ça, c'est déjà criminel. On ne leur a pas distribué des comprimés d'iodotable ou trop tard. Après, quand on est dans la zone entre 20 et 30, là, on est ce qu'on appelle dans l'évacuation libre, c'est-à-dire mise à l'abri, et si vous voulez partir, vous pouvez partir. Ben, évidemment, c'est totalement idiot. Les gens, où est-ce qu'ils peuvent aller ? Ils n'ont pas de choix que de rester sur place. Ça, on sait que dans ces zones-là, on est très proche de la centrale, on est dans des contaminations importantes. Et après, au-delà, ben, au-delà, ça dépend de quelle direction vous partez. Si vous partez en direction du nord, légèrement ouest, la contamination, elle ne diminue pas à mesure qu'on s'éloigne. Elle reste très importante. Par contre, si vous partez en direction de Tokyo, la contamination diminue. Mais vous avez des zones où elle est très importante. Heureusement, Tokyo n'a pas été très touché jusqu'à maintenant. Mais comme il y a des rejets qui continuent aujourd'hui, en permanence, rejet aérien et rejet liquide, le phénomène n'est pas terminé, donc on ne peut pas dire, au final, si on ne sera pas obligé d'aller évacuer encore beaucoup plus loin.
C'est une information qui circule, même parmi les milieux officiels japonais, trouver une alternative à Tokyo. Hein. C'est assez surprenant. Alors, au niveau de la contamination, est-ce que vous pensez que ça a été géré correctement, parce que selon la LIEA, ça a été géré tout à fait dans les règles, mais en étant allé sur le terrain, on sait déjà que les ordres d'évacuation ont été portés trop tard, qu'il y a beaucoup de zones contaminées, mais sur le terrain, en pratique, est-ce que vous pensez que c'est quand même correct hein, ou...
Le rapport de la IEA qui vient de sortir, qui est en train de sortir en ce moment, leur mission, elle est totalement, je dirais, hypocrite. Ils vont deux mois après sur le terrain, ils rencontrent TEPCO, ils vont pas rencontrer les gens. Hein, ils n'ont pas fait de mesures sur le terrain, visiblement, ils n'ont pas de chiffres. Et donc, ils veulent pas fâcher TEPCO. Donc, ils disent, oui, TEPCO, c'est pas mal débrouillé. Je suis désolé, vous posez la question à n'importe quel citoyen qui a suivi un peu l'actualité, il vous dira, ah non, TEPCO a très mal géré la situation à l'intérieur des centrales. Bon, ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que TEPCO a informé la population ? Est-ce qu'il s'est donné les moyens d'avoir l'information sur la radioactivité de l'air, sur la radioactivité sociale, pour pouvoir protéger les populations, apporter des mesures de prévention ? Et là, on a eu l'occasion d'interroger un responsable de TEPCO en lui disant, mais comment se fait-il que pendant 2 mois, on n'a eu aucun chiffre sur la contamination exacte de l'air, radionucléide par radionucléide, heure par heure, et lieu à chaque endroit, à 10, 20, 30 km, 50 km de la centrale. Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu ça ? Nous, c'est la première chose qu'on a demandé, nous, la CIRAM. On veut ces chiffres-là pour évaluer si les mesures de prévention qui sont prises sont pertinentes, est-ce qu'elles sont protectrices des populations ou au contraire, elles sont totalement insuffisantes. Ben, TEPCO répond en disant, nos appareils étaient en panne. Il dit, attendez, à 20 km, le tsunami n'a pas fait endommager vos capteurs. Et elle dit, ah ben non, mais c'est parce qu'il manquait d'électricité pour les faire fonctionner. Et il dit, mais ils n'ont pas été capables d'apporter une toute petite source d'énergie pour ces capteurs à 20 km pour les faire fonctionner et avoir cette information. Ça, c'est l'information. C'est le béaba, je dirais, de la gestion de crise sur lequel TEPCO c'est criminel, la position qu'il a adoptée, de ne pas se donner les moyens d'avoir cette information clé pour la protection des populations. Après, ça va avec la suite. Si vous n'avez pas l'info, vous faites pas grand-chose ou trop tard, ou etc. Et vous faites un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, vous tergiversez, et là, les gens sont bien rendus compte que TEPCO naviguait dans n'importe quel sens. Il n'y avait pas de stratégie. Donc, est-ce qu'ils étaient prêts, TEPCO, à ce genre de situation ? Et l'AIEA quand même reconnaît que TEPCO n'avait peut-être pas anticipé tout ce qu'il aurait fallu faire. Mais c'est un minimum, je dirais, quand même.
Ah, c'est marrant, parce que c'est pas forcément les infos qui... Voilà, c'est la première partie de l'interview de Roland Desbordes. C'est un bon matériel pour commencer cette émission. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on traiter la question du nucléaire ?
Oui, comment peut-on traiter la question du nucléaire ? Bien sûr, après Fukushima, aujourd'hui, Tchernobyl, il y a 25 ans. Donc maintenant, est-ce qu'il faut attendre une troisième catastrophe pour commencer à réfléchir sur la sortie du nucléaire en France et dans le monde ? Vos sentiments là-dessus, éventuellement ?
Oui. Mon sentiment est très clair. Chaque jour que passe, les dangers augmentent. Et ceux qui ont réfléchi tant soit peu à la question, ils se posent le problème d'une sortie la plus rapide possible. Bon, la chose la plus sensée serait de dire on arrête le nucléaire et on bricole n'importe comment autre chose, mais on écarte un danger majeur. Ensuite, on essaie de voir comment on peut faire. Bon, évidemment, pour un pays où les décideurs ont fait en sorte que 75% de l'énergie électrique soit produite par le nucléaire, donc on prenne cette espèce de cul-de-sac dans lequel on nous a mis et on essaye d'en sortir le plus rapidement possible. Évidemment, d'autres pays qui n'ont pas fait ce choix suicidaire ont plus de possibilités. On le voit en Allemagne, on le voit en Autriche, on le voit en Suisse, on le voit en Italie et en Espagne.
Mais est-ce que Fukushima aurait pu être évité là-bas au Japon ? Est-ce que s'ils avaient fait la centrale 10 km plus loin, est-ce qu'ils auraient évité de la catastrophe ou...
Je crois que non, parce que selon les informations qu'on avait pu lire, c'était que les cuves ou même la centrale aurait explosé, elle serait très abîmée avec le tremblement de terre. Et que le tsunami est passé derrière, mais c'était même avant le tsunami qu'il arrive dessus de la vague, il y avait déjà eu des gros dégâts à l'intérieur et que ça fallait vraiment que ça soit dans une zone non sismique. Est-ce qu'on peut éviter ? Comme l'erreur est humaine, dans le nucléaire, ça ne tolère aucune erreur. Fukushima peut arriver n'importe où.
Même en France. a priori. Donc, quand vous êtes génie, effectivement, faut sortir du nucléaire, même dans, en dehors des zones sismiques, a priori, puisque c'est pas parce qu'il y a un problème de trucs naturels qu'il y a une explosion nucléaire. Le nucléaire, en tant que tel, est dangereux même quand il n'y a pas de catastrophe naturelle. C'est ça que tu voulais dire au départ,
Je pense, non ? Moi, je crois qu'il y a une chose quand même qui est assez importante, c'est que pour le nucléaire en France, on a demandé l'avis à personne. Moi, je crois que c'est la seule chose où, effectivement, aucune consultation a été faite et en France, ça a été imposé comme ça. Maintenant, il faut savoir si nous, en tant que population, on se ressaisit de l'affaire ou, une fois de plus, on fait confiance aux experts. Et moi, ça me fait penser un peu au débat qu'il y a eu pendant le FRAP, parce que Nicole, tu y étais aussi. C'est la question aussi des experts. Aujourd'hui, dans chaque de chaque côté, il y a des experts qui se sont un petit peu entre guillemets autoproclamés. C'est vrai que les plus gros experts, c'est les experts d'État. Et les experts d'État, effectivement, le message qu'ils nous ont envoyé, c'est le nucléaire, c'est bien, il faut le sécuriser, on va le sécuriser et ça va bien marcher. Donc la problématique, c'est à nous, effectivement, peut-être de nous reprendre une certaine connaissance des enjeux du nucléaire et de ce que ça peut représenter pour, effectivement, ne pas laisser cette question, que ce soit celle-là ou d'autres, dans les mains seulement des experts. Voilà.
Ton sentiment, Nicole, éventuellement, sur la question
Je ne sais pas, il y a plusieurs questions là, qui ont été mises
Sur Fukushima, éventuellement, déjà.
Parce que Ripso disait l'erreur est humaine, mais j'ai l'impression que la question, ce n'est pas forcément seulement que l'erreur est humaine, certes, mais c'est que j'ai l'impression qu'au Japon comme en France, je veux dire, il n'y a pas eu les décisions qui ont fait que qu'ils ont implanté, ils ont fait un programme nucléaire d'une grande importance. Enfin, quand même, avec le Japon et la France sont vraiment les deux pays les plus nucléarisés au monde. Et ces décisions se sont faites dans une opacité totale. Et tout de même, je veux dire, faire le choix d'implanter, combien y a-t-il de centrales nucléaires au Japon? Une quarantaine.
55.
Dans un qui est un pays à haut, enfin, je veux dire, où le risque sismique est énorme, déjà, en soi, je veux dire, c'est foutre du monde. Enfin, je veux dire, il y a quand même, au fond, si je veux dire ça quand même, le nucléaire au départ, c'est quand même un choix de technocrates et de scientocrates, je sais pas comment on les appelait, de gens qui prétendent qu'on peut maîtriser les risques et qui décident que ce risque, on peut le faire courir à la population sans jamais donner demander son sentiment à cette population.
C'est même aussi à l'origine, ça vient du militaire, puisque les premières centrales nucléaires avaient pas pour but de produire de l'électricité, mais du plutonium pour faire des bombes. Donc à l'origine, ça vient du militaire, de toute façon.
Surtout en France, quand c'est De Gaulle qui met en place la première bombe, et donc c'est vraiment un militaire qui était à la tête de l'État, qui a fait son coup d'État, qui a voulu faire son joujou. Il y en a même qui disent qu'il a lâché plus rapidement que prévu l'Algérie française pour pouvoir avoir droit toujours d'utiliser son territoire, le Sahara, pour faire les projets de...
Alors juste un rappel, le Japon et la France, c'est quand même les États-Unis qui ont quand même 110 réacteurs sur quand même un pays qui est 14 fois plus grand que le nôtre. Donc effectivement, en termes de densité, c'est effectivement la France qui l'a plus nucléarisé.
Oui, mais justement, ce qui est intéressant est de voir comment les États-Unis ont arrêté la construction de toute centrale nucléaire à partir de la moitié des années 70, donc après l'incident de Three Mile Island. C'est un pays où le nucléaire est privatisé. Ce qui nous ramène, bon, on en parlera peut-être plus loin, à la question des coûts véritables qui ne sont pas cachés par l'État, par l'impôt, par le fait que certains au sommet de l'État décident et les citoyens payent. Mais sur la question de Fukushima, sur la question du risque que tu posais, moi je disais tout à l'heure, chaque jour qui passe, le risque augmente. Pourquoi ? Les centrales, non seulement vieillissent chaque jour de plus, mais elles sont déjà particulièrement vieillissantes en France. Et on nous avait dit au départ, dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, que le risque était infinitésimal, minuscule, ça ne se produit jamais. Bon, il y a eu Wenskel en Angleterre, un accident que pour éviter qu'on en parle, on a tellement fait qu'on a changé de nom le lieu qui maintenant s'appelle Sellafield. Ensuite Three Mile Island, ensuite Tchernobyl, ensuite Fukushima aurait un rythme d'un incident tous les 10 ans.
Ça, oui.
Et ce n'est pas des petits incidents, c'est des incidents qui laissent inhabitables des territoires énormes et sur lesquels on évite toute réflexion, toute information collective. Et on l'a vu avec la gestion de l'AIEA, où les données officielles, encore aujourd'hui, nous parlent de quelques dizaines de morts. 31, 51, oui. Je ne sais plus combien.
Alors, mais ça se compte par milliers, évidemment.
Non, mais on doit compter le million de morts des liquidateurs. C'est ça la question. Et il y a des témoignages qui ne sont pas des témoignages de sources officielles. Et ça, je pense qu'il faut le dire, l'affirmer haut et fort. Parce que ce n'est pas des sources officielles, ce n'est pas les Lauvergeon, ce n'est pas les Proglio, ce n'est pas le professeur Pellerin qui vont nous informer là-dessus.
Enfin, disons une chose plus précise quand même. Quand tu dis le million de morts des liquidateurs, non, il y a eu 1 million environ, entre 600 000 et 1 million de personnes qui sont intervenues sur le site de Tchernobyl pour enterrer le réacteur. Bon, toutes ces personnes ne sont pas encore mortes. Il y a une proportion énorme de gens qui sont malades, atteintes, et qui effectivement vont mourir de façon prématurée. Enfin, il y en a déjà un certain nombre, mais je ne me souviens plus combien.
Oui, il y en a beaucoup, parce qu'on ne peut pas mourir tout de suite, on peut mourir de 4 semaines, 3 mois, enfin 3 ans, etc.
Bon, sans parler effectivement des morts dans la population et surtout des maladies en tout genre qui se sont développées.
Et de toutes les naissances encore à venir, toutes les malformations, toutes les maladies.
C'est vrai que c'est catastrophique, d'autant que moi j'ai un chiffre que j'ai lu dans Les Silences de Tchernobyl, c'est un bouquin qui a été écrit par une journaliste de Libération dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui racontait qu'il y avait en fait entre 1945 et 1963, donc avec les essais des bombes, hein, là c'était militaire principalement, il y avait donc en Russie 150 millions de gens atteints par les radiations, ils ne sont pas morts, hein, mais atteints, donc cancer, malformation, enfin brûlures, vomissements, etc. Donc, qui sont carrément liés à la radiation. Hein. 150 millions aux États-Unis et 150 millions en Russie, donc, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ce qui fait quand même 300 millions sur deux grands pays qui en comptent presque le double en termes d'habitants. Hein. Donc, ce qui est quand même énorme. Alors, bien sûr, ces chiffres sont à vérifier. C'est que quelqu'un qui dit ça dans un livre, donc maintenant, il faut vérifier. Donc, ça montre quand même qu'il y a comme une dangerosité du nucléaire au monde, enfin, dans le monde en général, que ce soit civil ou militaire. Mais moi, je me pose une question. Alors, c'est peut-être une question toute bête, hein. C'est pourquoi les États, donc les élus, les États, font un silence énorme sur la question du nucléaire et pourquoi ils refusent le dialogue avec éventuellement les anti-nucléaires, mais avec les autres, parce qu'ils sont quoi? Ils sont responsables ils gèrent une entreprise, qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est le commerce qui les intéresse plus que la santé publique
Il y a de ça, mais il faut arrêter avec l'opacité totale et la non-transparence totale en France. Et il y a effectivement ça dans la communication, dans la volonté de cacher, de masquer, de minimiser en faisant des mensonges par omission sur Fukushima. Mais de plus en plus, eux, ce qu'ils veulent, c'est que la société dite civile dialogue, que les anti-nucléaires en papier carton, alternucléaire ou autre, aillent avec eux, discutent. Et ils savent que la catastrophe ne va pas arriver parce qu'il y a quand même... On a vu, là, c'est pas du tout passé dans les médias, personne n'en a entendu parler, mais qu'au dire pas, la commission pour la gestion du risque post-accidentiel. Et ça, c'est des trucs qui se font en France, où ils se rencontrent avec des associatifs, des médecins, des gens des EDF, Areva et compagnie, et ils discutent comment on fera de l'agriculture dans des territoires pollués. Et il y a quand même des antinucléaires en carton qui vont, qui disent oui, il faut aller donner la voix, on va nous écouter. Et donc là, le dialogue, ils le veulent. Hein. Mais c'est que aussi, le mouvement antinucléaire, c'était un mouvement d'opposition. Qui s'est fait liquider, mais il y a un mort quand même en France, à Crasmalville. Donc les gens, on ne peut pas discuter. Bien sûr, ils minimiseront, ils masqueront tous les chiffres qu'ils peuvent, mais s'ils peuvent essayer de mouiller les gens et leur faire accepter la gestion, c'est que je pense que les gens ne sont pas dupes, ils n'ont pas trop, enfin, j'espère, pas envie de gérer ça aussi.
Yves, tu veux prendre la parole pour nous donner ton sentiment
Oui. Alors moi je suis un peu le naïf, c'est le candide. Alors c'est la question que j'ai toute simple. on sait très bien que dans cette affaire, il me semble que l'intérêt privé est essentiel. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ont une sorte de pacte avec l'État. Alors j'aimerais savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, et quelles sont ces entreprises qui ont en fait signé le pacte du diable.
Je sais pas, les entreprises, il y a Areva, il y a Framatome, enfin il y a pas mal d'entreprises. Je sais pas si ce sont des entreprises d'État ou privées. Tu as une réponse là-dessus?
Moi j'ai l'impression que la réponse est sous les yeux de tout le monde. Oui. La grosse affaire du nucléaire, c'est pas seulement le combustible, c'est la construction des centrales, c'est la construction des infrastructures.
Exactement.
Ce sont tous les braves gens qui étaient au Phuket pour fêter la victoire de M. Sarkozy, parce que c'est les bétons, et c'est
donc Bouygues.
Bouygues
qui construit aussi le sarcophage, sarcophage de Tchernobyl.
Oui, mais il suffit de voir la liste de l'ensemble de ceux qui font du béton en France, des grands constructeurs d'infrastructures, et ben c'est là les profiteurs du nucléaire. Et d'ailleurs, on voit bien, par exemple, comment ça s'est passé en Italie.
Oui.
Pour favoriser quel type d'intérêt M. Berlusconi a poussé pour que l'Italie revienne au nucléaire. Bon, là, il risque de se prendre une baffe parce que, en ce jour, il y a un référendum sur cette question. Mais sa question de fond était justement réactiver des grandes infrastructures qui permettraient des interventions d'État, c'est-à-dire de donner de l'argent de l'État à des privés, aux copains.
Je crois qu'on a on a quelqu'un au téléphone, c'est possible, non, Johan?
Charlotte, qui est en direct.
Très bien.
Bonsoir.
Je t'entends pas très bien. Tu es là?
Oui, je suis là.
Ok. Donc tu veux participer au débat. Alors, donne-moi tu es d'une centaine nucléaire, si je crois, hein, du réseau.
Oui.
D'accord. Tu peux nous donner un peu ton sentiment sur le problème de Fukushima, un petit peu. Tu as suivi l'affaire. Tu as des choses à dire sur ce sujet?
Oui. Alors j'ai suivi l'affaire, bon, probablement pas aussi bien que Roland Desbordes qui doit intervenir ce soir, si je me souviens bien. Ce que nous savons, c'est que ce qui est en train de se passer, on va de révélation en révélation, à savoir que les autorités ont su vraiment depuis les premières heures de l'accident la gravité de ce qui s'est passé, et nous l'avons appris extrêmement tard.
Oui.
Par exemple, la fusion des réacteurs, le fait que le combustible en fusion ait percé les cuves, ce qui est quelque chose d'extrêmement grave, et pendant des mois, on nous a laissé entendre que, oui, on avait du mal à refroidir, mais qu'on allait y arriver quand même. Alors maintenant, je ne vais pas rentrer dans des explications techniques, mais c'est tout bonnement scandaleux ce qui se passe, d'avoir un pays dont la population est sacrifiée comme ça, des populations qui, dans un périmètre quand même assez large, ont été soumises à des retombées et auxquelles on n'a pas demandé d'évacuer, dans lesquelles un périmètre dans lequel l'école a repris malgré les radiations, c'est tout bonnement scandaleux.
Tu m'entends là?
Oui.
Oui. Je voulais savoir si Sortie du nucléaire donc avait une position très marquée sur le par rapport à la France. Hein, donc là, je reviens sur le territoire français. Sur une sortie nucléaire, comment tout de suite, l'arrêt des centrales en construction tout de suite, sur une sortie dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est quoi la position de Sortie du nucléaire aujourd'hui?
La position du réseau Sortir du nucléaire, c'est que nous voulons là maintenant une décision de sortie du nucléaire. Toutefois, nous regroupons donc une grande diversité de mouvements et d'associations, depuis des partisans d'une sortie immédiate jusqu'à des partisans d'une sortie à échéance beaucoup plus longue, disons échéance 30 ans. Et notre ambition est de dire que peu importe la durée, on ne va pas fragmenter le mouvement et tous ensemble nous unissons pour demander cette sortie.
Donc une sortie comme à l'Allemagne, donc pour 2020, pour 2022 quoi.
C'est ce que portent certaines associations. Comme je vous disais, nous, on n'est pas pour une date de sortie précise, sachant que, par ailleurs, ça ne dépend pas de nous politiquement. Ce que nous demandons, c'est qu'on ne laisse pas fonctionner les réacteurs au-delà d'une trentaine d'années, ça c'est certain. Nous avons d'ailleurs lancé le 17 mars dernier un appel qui a été signé par une soixantaine d'organisations avec cette revendication, sachant que les réacteurs donc vieillissent, que leurs composantes deviennent de plus en plus fragiles et vulnérables et de plus en plus sujettes à accidents. Donc nous fixons cette date butoir d'une trentaine d'années. Nous ne faisons pas la promotion d'un scénario de sortie plutôt qu'un autre, mais nous indiquons les scénarios qui existent, à savoir par exemple le scénario négawatt qui prévoit une sortie en 20 ans, les scénarios qui ont été rédigés pour le compte du réseau Sortir du nucléaire voici quelques années, qui proposent des sorties plus courtes, respectivement en 5 et 10 ans. Nous faisons connaître les différents scénarios qui existent également dans d'autres pays. Et tout ça constitue une matière à réflexion pour demander une décision de sortie.
Alors j'ai passé. Tu peux rester au téléphone et participer au débat. Christian, est-ce que tu veux intervenir sur la situation Fukushima
je
ou...
Je suis pas un expert dans le nucléaire. Non, j'interviens sur l'emploi avec toi dans l'émission, ouais, mais je suis sensibilisé à cette question parce que pour moi, le niveau élevé du nucléaire en France bloque complètement la situation au niveau des énergies renouvelables. Donc déjà, économiquement, c'est complètement incohérent. Et je pense que la France a un particularisme, c'est qu'on cumule les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir de l'énergie et du militaire, entre les mains de quelques-uns seulement. Et nous sommes un pays qui a un siècle, j'irais, d'histoire dans le nucléaire, à marche forcée. En 63, le décret a permis de créer des centrales nucléaires sans aucune consultation citoyenne. Je trouve aussi que le nucléaire, ça permet l'ouverture vers l'industrie sale. C'est-à-dire qu'en fait, ça pose aussi le problème de la propreté de notre économie en général, et que cette idée s'est installée au fur et à mesure au XXe siècle. Le XXe siècle étant un siècle quand même assez misérable au niveau guerrier, en Europe notamment. Je pense qu'on n'est pas sorti de ce cumul entre énergie et militaire. Et même si d'autres pays essaient d'en sortir, le problème c'est qu'il n'y a pas de vraie volonté forte donc pour en sortir.
Qui veut prendre la parole sur le sujet?
Je veux bien prendre la parole, parce que je ne sais pas si la personne du sortir du réseau...
Tu es toujours là, Charlotte?
Oui, je suis toujours là. D'ailleurs, j'aurais bien aimé réagir par rapport à cette idée de cumul du nucléaire civil et militaire. À moins que quelqu'un d'autre...
Non, mais on peut discuter tous ensemble.
Oui. Plutôt que de cumul, il faut bien mettre en évidence le lien qui existe entre nucléaire civil et militaire, à savoir que le nucléaire, donc pour produire de l'électricité, en fait, dès le début, c'est quand même absurde de se servir de l'atome pour faire bouillir de l'eau. Déclencher une réaction physique comme ça, extrêmement dangereuse, tout ça pour porter de l'eau à 300 degrés, si on y réfléchit bien, c'est quand même très coûteux, très absurde et très dangereux. Donc ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'origine, le nucléaire dit civil n'était conçu que pour servir de paravent au nucléaire militaire. Les premières installations nucléaires ont été construites principalement pour permettre de générer du plutonium qui servait pour la bombe. Encore maintenant, nous avons donc ce fameux mythe du retraitement entre guillemets, dans l'usine de La Hague en particulier, qui permet de faire croire que nous recyclons nos déchets et qui en réalité permet surtout donc de continuer à produire du plutonium. Le matériau des bombes.
Merci Charlotte. Nicole, tu voulais intervenir?
Oui, moi je voulais revenir sur le point qui a été développé donc par Charlotte, à savoir la sortie du nucléaire à 30 ans, proposée
par certains
du réseau. Moi, je suis quand même très gênée par l'argument qui consiste à dire politiquement, ça ne dépend pas de nous. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, pourquoi 30 ans? 30 ans, maintenant, statistiquement, ça veut dire qu'on a encore le temps de se prendre disons, en termes de probabilité, trois accidents majeurs dans la gueule.
Hein, oui, dont Fessenheim en plus.
Et,
oui.
Et jusque-là, en France, je veux dire, on a eu un bol du tonnerre, et on a frôlé l'accident majeur à plus d'une reprise. Mmh. Et donc ça veut dire qu'en 30 ans, on a largement le temps d'en avoir un, deux, peut-être trois, enfin, et peut-être plus. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est absolument ahurissant. Alors,
oui, mais attends, je... Oui, mais continue. Je ne parle pas de sortir du nucléaire en 30 ans.
Oui, non, mais attends, je termine. Je termine et ensuite tu pourras réagir.
En même temps, vas-y.
Politiquement, je veux dire, ça ne dépend pas de nous, c'est bien le problème. Et le problème, c'est effectivement de tout faire pour que ça dépende de nous. Parce que de qui ça doit, de qui est-ce censé dépendre? Je veux dire, est-ce qu'on doit continuer à laisser ce genre de décision entre les mains d'un certain nombre de technocrates et d'hommes politiques, je veux dire, qui ont toujours décidé sur notre dos? Ou est-ce que c'est maintenant plus urgent que jamais d'affirmer une position? Je veux dire, à la base, je veux dire que la population dise, à un moment donné, dise, il faut arrêter, je veux dire, et le prix qu'il faudra payer pour ça, je veux dire, on aura tout le temps de s'adapter à la situation, je veux dire, si effectivement il faut consommer deux fois moins d'électricité, eh ben, on aura le temps de se poser la question, mais la décision d'en sortir, elle doit être prise de façon urgente, et il faut pas composer avec ça, je veux dire, on n'a pas à laisser à d'autres supposés avoir le pouvoir politique cette décision.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous, on est pour une décision immédiate de sortie, quel que soit le délai, mais en tout cas une décision immédiate. Et on est pour une réappropriation donc par les citoyens de la question de l'énergie, question qui n'a jamais été débattue à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais fait l'objet d'un référendum. Je suis d'accord. Je me suis peut-être mal exprimée en disant « c'est pas nous qui décidons ». Ce que je veux juste dire, c'est que de toute manière, c'est le nucléaire, il faut bien le reconnaître, c'est le domaine le plus opaque qui soit, c'est le domaine le moins démocratique qui soit, et ce qu'on veut dire, c'est que si techniquement, ça représente pas quelque chose d'insurmontable de sortir du nucléaire, par contre, culturellement, on se heurte à des lobbies, on se heurte à des grands corps d'État, on se heurte à une espèce d'oligarchie, et bien sûr, moi... Mon souhait, c'est qu'on en sorte le plus tôt possible, c'est que tout le monde se réapproprie la question, mais il faut être aussi conscient que ce sera vraiment très 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 dur d'arriver à se réapproprier la question. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'il ne faut pas le faire, au contraire, parce qu'on doit absolument le faire, mais ce sera un sacré boulot pour mettre à bas cette oligarchie qui en ce moment décide de tout.
Oui, tu voulais parler.
Mais après, culturellement, je pense que culturellement, il y a ceux qui ont la culture ouvrière, ils n'en rêvent pas du nucléaire. Quand on voit que les personnes qui sont actuellement en train de fabriquer le chantier de l'EPR à Flamanville, c'est pas le Pékin moyen du coin. Ils ont embauché des Polonais parce que déjà ils coûtaient moins cher, je pense, et parce que et on leur a peut-être moins bien indiqué qu'est-ce sur quoi ils allaient faire, et ils y sont allés un peu plus. Parce qu'ils avaient besoin d'y aller pour bosser et se faire un peu de thunes, je pense, mais c'est pas si clair que ça qu'il y a encore beaucoup de gens, ingénieurs ou autres, qui veulent aller vers cette filière-là. C'est quand même pas des filières qu'il faut rêver.
Bah, c'est sûr, mais la majorité des Français est pour la sortie du nucléaire, 77%. Donc c'est là qui est vraiment le scandale, c'est que plus des trois quarts des Français sont pour la sortie du nucléaire. Et quand on regarde nos élus, eh ben, je suis pas sûre qu'il y ait un quart qui soit pour la sortie, en tout cas. Et c'est vraiment là qu'est le scandale et la nécessité de se réapproprier la question.
Il y a trois ans, c'était l'inverse, quoi. C'était 77% qui étaient pour le nucléaire en France et ailleurs, parce qu'il a fallu quand même Fukushima pour que les consciences se réveillent. Mais moi, je trouve ça quand même dommage qu'il y ait eu Tchernobyl avant et que personne à cette époque-là n'ait, sauf les antinucléaires, bien sûr, qu'on connaît, mais qu'on connaît ou qu'on connaît pas d'ailleurs, se soit réveillé à ce moment-là. Mais dans l'opinion publique, il y a eu les coupures de presse et les bouquins qui ont été écrits sur Tchernobyl, bien sûr. Mais d'une façon générale, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, ni des États, ni des peuples à l'époque, enfin, dans mes souvenirs, hein. Alors que maintenant, avec Fukushima, effectivement, il y a une réaction qui est beaucoup plus importante. Donc il a quand même fallu deux catastrophes majeures pour que les gens se réveillent. Donc maintenant l'Allemagne sort du nucléaire, la Suisse aussi, les États-Unis, comme le disait tout à l'heure notre camarade, également s'est arrêté sur certains réacteurs. Que fait la France, quoi? Surtout, hein, c'est ça, génie. Que fait la France maintenant? Pourquoi la France continue à s'entêter à faire du nucléaire? La question est posée, donc, hein, Charlotte?
Oui.
Je sais pas.
Bah, on est vraiment une exception en Europe, ça c'est sûr. On est l'exception, on est aussi l'exception parce qu'on est le pays le plus nucléarisé, le pays qui exporte ses centrales à tout va, c'est certain. Mais pour parler de Tchernobyl, pourquoi il n'y a pas eu de réaction à l'époque? Mais parce que à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas encore la CRIRAD, on n'avait pas les moyens d'aller sur le terrain pour faire des relevés, on n'avait pas les moyens de diffuser l'information, on n'avait pas les moyens d'être directement en contact avec les associations là-bas. Et on a eu également une désinformation époustouflante. Je ne parle pas seulement de tous les mythes sur le nuage arrêté à la frontière, mais également de tout ce qui s'est mis en branle pour dire que à l'époque, oui, il y avait eu juste quelques morts. Il faut bien rappeler que c'est un Français, le professeur Pellerin, qui a été dans les tout premiers, donc a décidé à huis clos, avec quelques spécialistes, du nombre de morts qu'on allait annoncer qu'il y aurait à Tchernobyl. Alors même qu'on savait qu'il y aurait énormément de morts.
Je pense aussi que Tchernobyl s'était beaucoup aussi attribué au fait que ça, c'était en Union soviétique et que ça pouvait pas arriver dans les puissances occidentales, capitalistes, etc., etc. Là, le Japon, c'est quand même une des premières puissances économiques et une grosse puissance technologique et qui a pas été épargnée.
Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est une rationalisation qui est venue après. Parce qu'il y a encore quelques mois, on parlait de la centrale de Tchernobyl comme elle est tellement sûre, on pourra en construire une sur la place Rouge. Quelques mois avant Tchernobyl, l'URSS était quand même aussi réputé comme un pays de haute technologie, qui savait maîtriser de telles technologies. Et donc, c'est une rationalisation qui est venue après. Alors moi, je suis curieuse de savoir si par hasard, ils vont pas nous inventer quelque chose pour le Japon pour justifier ça. Que par exemple, c'est parce que c'est une firme privée ou quelque chose comme ça. Et on trouvera toujours une pseudo-explication pour essayer de minimiser les faits et pour dire que si on avait fait autrement, ça aurait pas été possible. Mais effectivement, là, maintenant, dans un des pays les plus développés, les plus technologisés au monde, c'est un sacré choc, oui.
Merci Charlotte. Jeannie, tu veux intervenir?
Moi, j'ai l'impression que les décideurs ont tiré profit de l'expérience de Tchernobyl, notamment pour ce qui concerne la gestion de l'information. Parce qu'à l'époque de Tchernobyl, il y avait une bonne partie des médias occidentaux qui s'intéressaient à ce qui se passait dans l'Empire du Mal, hein, ne serait-ce que parce qu'il fallait en dire du mal. Ensuite, on était en plein glasnost, donc il y avait les soviétiques eux-mêmes qui donnaient un minimum d'informations. Bon, en France, c'était encore plus opaque qu'ailleurs, mais il faut pas oublier que à la même époque, en Italie, il y a le référendum sur le nucléaire et une très grande majorité vote pour la sortie du nucléaire il y a 25 ans. D'ailleurs, ça devrait nous faire réfléchir que le fait qu'ils ont voté la sortie du nucléaire, ils ont arrêté de faire fonctionner les centrales, mais il y a toujours, 25 ans après, des déchets radioactifs qui vont toujours encore à la Hague. Hein? Donc, qu'est-ce que ça voudra dire pour nous, la sortie du nucléaire? J'ai l'impression qu'il faudra une décision, il faudra demander, en tout cas poser la question d'une décision d'arrêt des centrales nucléaires, et ensuite la sortie se fera avec tous les délais qu'il faudra, parce que évidemment, si les Italiens sont encore 25 ans après en train de sortir et de démanteler leurs centrales, c'est pas EDF qui va faire ça en 3 semaines. Donc ça, on devrait déjà regarder ça de façon un peu lucide quand on parle de sortie. Moi, je pense qu'il faut parler d'arrêt le plus rapide possible. Et ensuite, poser des problèmes de comment faire fonctionner la société et fournir de l'énergie en écartant le danger majeur qui est un accident nucléaire majeur, ce qui nous guette chaque jour de plus. Mais ce que je veux dire par là est que le véritable problème qui se pose à nous aujourd'hui est qu'est-ce qu'on fait pour créer un rapport de force en faveur d'une sortie rapide et si possible immédiate du nucléaire, et pas seulement le fait de demander poliment à Madame Lauvergeon, à Monsieur Proglio ou aux décideurs qui vivent et qui font des profits sur le nucléaire, qu'il faudrait peut-être effectivement un peu sortir. Bon, il y a des tas de choses qui se sont passées en Europe. Je pense que on devrait profiter de cet état de choses pour imposer cette nécessité, à commencer par un débat public véritable et ensuite une décision où le public a son mot à dire. Mais ça se construit, c'est un rapport de force qu'il faut construire. C'est pas simplement un tournant entre nous, en se disant entre nous toutes les horreurs qu'on pense du nucléaire. C'est ça le véritable problème. D'où la nécessité d'être clair nous-mêmes sur ce qu'on cherche.
Très bien, merci Jeanne. Oui, Charlotte, tu es toujours là ?
Oui, je suis toujours là.
D'accord. Donc, parce que moi, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la sortie du nucléaire, le démantèlement des centrales, ça va être, en termes de coûts, quelque chose de pharaonique quand même. Parce que
oui.
Si on pense qu'une centrale nucléaire se construit, on va dire, 5 à 10 ans pour construire une centrale.
Minimum.
Qui coûte minimum, oui, qui coûte pour 1000 mégawatts, 1 million mégawatts, pardon, c'est 1,5 milliard d'euros par réacteur, hein. Qu'il y en a 58 en France, ça veut dire qu'il y a à peu près 85 milliards d'euros pour la construction des 58 centrales en France. Qu'il faut compter, selon le monde diplomatique, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, entre 150 milliards et 200 milliards d'euros pour le démantèlement de tous les réacteurs en France. Plus le coût que ça a coûté sur la santé des gens qui étaient malades, voilà, ce que va faire EDF sur les tests, sur les centrales EDF pour la conformité au niveau de la sécurité, ça a coûté un coût énorme aussi, puisqu'on sait très bien que nos centrales ne sont pas sûres. Hein, comme on disait, quand on disait dans les manifs Fukushima, plus jamais ça, on disait aussi le risque zéro n'existe pas. Mais on sait maintenant que les centrales, Chinon, enfin il y en a un certain nombre, ont des soucis importants. Je ne dirais pas que c'est du niveau 7, comme bien sûr Tchernobyl et Fukushima, mais du niveau 1, ou voire niveau 2, peut-être 3, qui sont encore des niveaux acceptables, a priori. Mais ça, c'est un coût énorme.
Oui.
Hein, donc, si on avait mis tout cet argent, c'est-à-dire l'équivalent de 300 milliards d'euros dans les années 60 sur les énergies propres, renouvelables, etc., le solaire en principe, en particulier, on n'en serait pas là, quoi. Je veux dire, effectivement, comme disait Jenny au début de cette émission, ce sont des territoires morts avec des peuples qui sont condamnés, et ça, c'est inadmissible. On va écouter une petite chanson, ensuite, on reprendra la parole.
Je rajouterai quelques infos.
Je voulais ajouter dans les coûts, il y a aussi le coût de la gestion des déchets qui va durer encore pendant des siècles. Et même plus.
Je l'avais oublié, c'est vrai.
Moi, par rapport au coût que tu donnais, je pense même que c'est très, très largement sous-estimé. Il faut savoir que la Grande-Bretagne, qui a un parc nucléaire qui est bien inférieur au nôtre, moins de la moitié du nôtre, a prévu 103 milliards d'euros pour ses centrales. Nous, on a quasi rien prévu. Si EDF veut prolonger la durée de vie des réacteurs, c'est minimum 600 millions d'euros par réacteur. C'est quand même énorme. Quant aux déchets, il y avait un chiffre de 34 milliards d'euros à peu près pour l'enfouissement. Ce qui me semble même pas réaliste quand on pense que certains déchets ont une durée de vie qui dépasse le millier d'années, qu'il va falloir, on n'a jamais fait ça dans l'histoire de l'humanité, prévoir un dispositif pour gérer ces déchets pendant une telle période. Donc c'est juste quelque chose d'incalculable, voilà.
Je rajouterai quelques infos. Sur Fukushima, déjà, il y a des scientifiques au niveau indépendant international qui réfléchissent à un niveau 8 pour Fukushima, parce que c'est toujours pas réglé. Et ensuite, qu'en France, il y a toute une série de centrales qui ont été fabriquées à peu près en même temps, qui arrivent à peu près au même âge, donc en même temps, et qu'il faudra démanteler probablement en même temps, donc un héritage terrible qui nous arrive dessus. Et la question se pose véritablement en matière technique et sociale. Voilà.
On va passer une petite intermède musicale, et puis on reprendra la parole par la suite.
Yvonne, tu m'aimes.
Eh oui, vous êtes bien dans Cause commune. Donc, c'est une émission commune à toutes les émissions sociales et politiques de FPP, Fréquence Paris Pluriel. Ce soir, il y a toutes les équipes de Zoom Écologie, de Mode d'Emploi, de la Vive la Sociale, bien sûr, qui est aussi bien représentée ce soir, puisqu'ils sont deux à venir nous voir. Également, de mes souvenirs, je vais regarder, il y a qui d'autre ? L'hebdo, bien sûr, et puis l'émission de Yves, c'est le truc des auteurs, c'est comment on tourne ?
En fait, il y a Théâtre sans frontières, voilà. Et le rendez-vous des auteurs.
Des auteurs, mal. Donc, je remercie à nouveau Zoom Écologie qui nous laisse leur heure d'antenne pour faire une émission spéciale, donc une soirée spéciale antinucléaire ce soir. Donc on reprend cette antenne, je vais parler avec Christian qui va nous raconter un petit peu son histoire, un petit peu personnelle.
C'est une histoire en fait, oui. C'est par rapport à mon oncle, c'est en 86, moi je suis d'origine alsacienne, et mon oncle est physicien, et au moment de l'incident de Tchernobyl, les images passaient, je me rappelle, de façon très distillée à la télé, et on nous livrait des informations pendant une semaine comme ça, c'était au compte-gouttes. Et lui avait fait un relevé de mesure de radioactivité parce qu'il est très équipé, c'est un institut de recherche, je peux pas donner le nom, mais très important à Strasbourg. Et il a tout ce qu'il faut, compteur GGR, etc. Et il avait commencé à faire des relevés et il s'est aperçu qu'il y avait un écart vraiment important entre ce qui était annoncé sur la télé nationale et ce qui relevait aux environs de Strasbourg et à Strasbourg. Et donc il a appelé le commissariat à l'énergie atomique en leur donnant, parce que bon, déjà ses fonctions, etc. Et donc par rapport à la crédibilité qu'il avait. Et il a eu un malaise quand ils lui ont demandé tout de suite son nom, son adresse, etc. pour vérifier l'information. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un malaise, qu'effectivement il y avait un contrôle de l'information. Il voulait, lui, de façon un peu angélique, donner une information et on le contrôlait. Donc pour rebondir, en fait, après en Alsace, c'est vrai que je me rappelle de cette époque, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de thyroïde, de cancer, à travers vers l'eau, aussi le phénomène des pluies acides. Et donc beaucoup de gens se sont intéressés aux nappes phréatiques, aux rivières, etc., à ce qui se passait au niveau de l'eau en Alsace. Et je pense que cette région est quand même très sensibilisée au problème. Dans ces années-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un contrôle. Moi, je me rappelle, en tant qu'adolescent, qu'il y avait un contrôle très fort de l'information au niveau étatique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en fait, ce qu'on pense qui arrive dans les autres pays est complètement géré de la même façon dans notre pays. Voilà.
Mais c'est édifiant quand même parce qu'effectivement, tous les scientifiques, que ce soit à Tchernobyl ou même à Fukushima, qui sont ingénieurs nucléaires, qui au départ ont travaillé sur les sites, etc., qui ont fait des fois des rapports, je ne me souviens plus de ce nom de ce scientifique russe qui s'est retrouvé emprisonné parce qu'il en fait il a contesté les
Bandajevski, professeur.
Voilà, c'est ça, merci beaucoup, c'est ça. Donc il s'est retrouvé emprisonné parce qu'il il contestait les chiffres d'État. Je crois qu'il est encore en prison, si mes souvenirs sont bons, non ?
Résident surveillé, ouais.
Voilà, c'est ça, résident surveillé. C'est quand même un monde. Hein,
ouais. Il a monté d'ailleurs un site qui s'appelle Tchernobyl-today. .org, justement sur la contamination sur les sites.
D'accord.
Sur le site de Tchernobyl et ils sont en train de développer avec des associations des modèles pour évaluer les moyens de vivre dans des territoires contaminés, donc dans le pire cas, quoi. Mais bon, c'est voilà.
C'est pas évident, c'est sûr.
Moi, je voulais faire juste un tout petit retour en arrière sur la question de la gestion de fin de vie des centrales et de tout ce qui est le démantèlement, parce que pour moi et comme pour d'autres personnes, le nucléaire aussi, c'est pas qu'une question d'énergie, c'est une question de société, de rapport social. Et c'est pas une question technique, c'est une question éminemment sociale et politique et économique, donc. Et le rapport au monde que ça crée, c'est un rapport au monde comme un livre d'expertise, de prise de pouvoir des uns sur les autres et à une société réellement antidémocratique. Où la responsabilité, on doit faire confiance à des gens qui savent, qui nous disent plus ou moins bien les choses, s'ils sont
l'aspect
experts.
C'est technique. Voilà. Si on dit c'est technique, c'est... vous pouvez pas comprendre. Voilà.
Et donc le truc, c'est que pour moi, j'ai pas envie de recréer une caste en ayant eu l'arrêt de la immédiat, tout ce qu'on veut du truc. Vu que la sortie, on l'aura pas, elle sera avec les déchets, c'est impossible à sortir du nucléaire. Faut arrêter maintenant pour que ça en crée pas plus. Et la centrale nucléaire, c'est un déchet en lui-même. Tout ce qui est à l'intérieur qui a été bombardé. Y compris les hommes, s'ils sont restés trop longtemps, on devient une source radioactive. Les métaux, les boiseries, s'il y en a, tout devient radioactif. Donc, au lieu de disséminer tout, et parce que après, si tu commences à découper, il faut le faire proprement. Si tu balances un peu d'eau dessus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'infiltrer, elle va partir dans la rivière. Pour moi, la centrale nucléaire est une poubelle, et là, on stocke ce qu'il y a à stocker, et on essaie de le faire le mieux possible. Parce que sinon, ça va disséminer les trucs. Il faut avoir une confiance totale avec comment on fait pour le. Et je sais pas si il y aura beaucoup de gens aussi qui auront envie d'aller autogérer, de démonter ça, de faire bien attention. Moi, je préfère qu'on laisse sur place, qu'on calfeutre bien et qu'on essaye d'arriver à se le passer d'année en année pour dire là, il y a des trucs qui refroidissent, qui perdent leur radioactivité petit à petit.
D'accord. Vas-y.
Oui, alors
c'est une position intéressante. Je n'ai pas encore entendu, mais c'est intéressant.
C'est encore le candide qui cause. Quels sont les pays dans le monde où il n'y a pas de centrale nucléaire?
Alors là, bonne question. Je crois là, que les Arabes Unis, là, pays, non, c'est pas, c'est les Arabes, le pays.
En Afrique.
En Afrique, il n'y en a pas.
En
Afrique, il n'y en a pas.
Ensuite,
il y a les.
Est-ce que les pays nordiques?
Oui,
mais ils en ont quelques-uns, mais ils n'en ont pas beaucoup.
On est en train de se faire construire un EPR par Areva.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'un EPR?
La Chine n'en a pas beaucoup.
EPR, c'est le nouveau format des.
C'est une centrale de la quatrième génération, je crois.
Ah merde, pardon. Oui.
Que Areva essaye de nous fourguer à nous et partout dans le monde.
Ouais. Ah bon?
Je crois que c'était European Pressure Reactor et ça a changé de nom. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est le nouveau nom maintenant. Ils ont changé de dénomination.
Alors, quels sont les autres pays?
Il y a quelques pays au Moyen-Orient aussi qui n'ont pas de centrale.
Beaucoup de pays d'Amérique du Sud n'en ont pas. Faudrait faire le tri, mais il y en a très très peu qui ont des centrales nucléaires là-bas aussi.
Mais c'est une très bonne question parce que j'ai pas les noms en tête, mais il faudrait effectivement rechercher.
Il y a une carte qui traîne sur Wikipédia sur justement le nombre de centrales nucléaires qui est très intéressante. On peut aller sur Wikipédia. C'est concentré sur les pays occidentaux.
Oui.
Les pays dirigent donc ceux du G8 en général.
C'est ça, c'est le G8 exactement.
Et après, il y a quelques centrales qui ont été construites au Brésil, en Irak par exemple aussi, en Iran. Il y en a beaucoup qui sont prévues en Chine
et en Israël.
Israël en a, ou effectivement aussi pour des salés l'eau notamment.
Autant pour moi.
Et on retrouve les pays les plus riches du monde actuellement comme principal possesseur des réacteurs nucléaires expérimentaux comme civils.
En fait, donc, l'ensemble des membres du G8, ah ben là justement il y a une carte. Eh ben c'est extra, merci beaucoup.
Bon, moi je.
Oui, oui tu. Nicole.
Je voudrais revenir sur. Excuse, on saute un peu du coq à l'âne, mais bon.
Oui, vas-y, mais
c'est important.
Vas-y, Nicole.
C'est très important.
Deux choses par rapport aux questions qui ont été soulevées précédemment. Tu, Yves, justement, tu avais posé la question des intérêts privés
Oui.
Mais moi, je voudrais quand même rappeler que effectivement, il y a des intérêts privés. Il y a effectivement tous les bétonneurs, Bouygues et compagnie, qui ont des intérêts privés. Il y a Areva qui a des intérêts, tout ce qu'il y a de plus privé, etc. Mais le nucléaire, en France, au Japon, qui sont les deux plus grosses, les plus pays les plus nucléarisés au monde, le nucléaire n'aurait jamais pu prendre la proportion qu'il a prise et se développer comme il s'est développé sans l'appui et les finances, l'appui politique, la volonté politique et la puissance financière de l'État. Hein? Et j'insiste parce que il y a un discours maintenant qui dit, on entend dans certains milieux dire que s'il y a eu Fukushima, bon, c'est à cause du fait que c'est entre les mains de TEPCO qui est une entreprise privée. Mais TEPCO, d'abord, l'État possède une partie importante du capital de TEPCO et il y a une intrication étroite, je veux dire, entre les responsables de TEPCO et les responsables politiques. Enfin, je veux dire, on peut pas dissocier les deux. Je veux dire, c'est maintenant c'est une structure mixte, je veux dire, qui a permis le développement de ce genre de choses. Donc c'est pas parce qu'on nationaliserait TEPCO aujourd'hui que les choses changeraient fondamentalement.
Exactement.
pense que c'est quand même important de le dire.
C'est le pacte du diable.
Voilà. Et savoir que TEPCO est en faillite, hein. Virtuellement en faillite, et ne tient que parce qu'il y a la volonté de gouvernement de ne pas perdre la société, hein. Mais là, on est dans la même condition que la crise de 2008, c'est-à-dire que trop gros pour tomber, mais TEPCO n'a pas les moyens de payer les dégâts.
Et voilà, et c'est l'État, donc les contribuables, qui vont payer pour
comme d'habitude
tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il va falloir faire pour indemniser, pour nettoyer, pour etc. Enfin,
voilà, bon, risque mutualisé.
Oui.
Nous avons un invité.
Voilà, au téléphone. Voilà. Oui.
Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche du CNRS, astrophysicien, et avec lequel nous allons pouvoir discuter technique, mais aussi bien plus large, sur la question de Fukushima et puis d'autres, l'avenir du nucléaire. Jean-Pierre Petit, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien, oui, ça va. Oui,
pouvoir discuter. Alors, je vous avais demandé de en interview pour pouvoir traiter du sujet de Fukushima, de la situation sur place et une réflexion sur les solutions qui sont apportées. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan actuellement ?
Oui, surtout très rapide, parce que le bilan, ça, il arrive ce qui était prêt à prévoir, c'est que quand on fait rien, c'est catastrophique, quoi, c'est tout. Et il y a des tas de choses qui ont été dites, par exemple, je pense à l'autorité de la sûreté nucléaire. À un moment, j'ai entendu un gars dire, mais vous savez, de toute façon, si le corium se met à descendre, il faut pas oublier que les réacteurs sont sur une dalle en béton de 8 mètres d'épaisseur. Mais ce monsieur oublie le séisme. Et le séisme, on se focalise un petit peu sur le tsunami. Un séisme, ça fracture n'importe quoi. Si vous regardez sur les photos, vous voyez bien qu'il y a des fissures qui courent sur des plateformes qui sont considérables. Et ben ça crée des fracturations qui vont engendrer une fuite de matériaux radioactifs dans le Pacifique. Hein. Et là, face à un truc comme ça, on reste complètement désarmé. Quand il y a eu Tchernobyl, les Russes ont fait deux choses. La première, c'est qu'il y avait un incendie du graphite qui emmenait les matériaux radioactifs dans l'atmosphère. Alors ils ont sacrifié 600 pilotes pour arriver à boucher ce trou et à éteindre cet incendie. Puis là après, ils ont aussi sacrifié des mineurs pour mettre une dalle en béton en dessous. À Fukushima, on n'a rien fait. Absolument rien. Je veux dire que maintenant, les aveux de la société, c'est effarant, quoi. Je crois qu'il y a une chose, c'est aussi la psychologie des Japonais, qui est de refuser toute aide extérieure et tout conseil. C'est-à-dire, dans une situation comme celle-là, il aurait fallu se dire quels sont les gens qui ont de l'expérience dans des catastrophes nucléaires. C'est les Russes. Et moi, dans mon site, j'ai fait des dessins là-dessus, parce que je suis ingénieur quand même de formation. Bon, bah, vous avez les réacteurs eux-mêmes, on sait maintenant qu'ils ont fondu dans les heures qui ont suivi, donc là, c'était déjà foutu, quoi. Le corium était déjà formé. Et il y a aussi les piscines. Puis après, il y a eu l'explosion de tout ce bazar. Et il fallait essayer de nettoyer le site, il fallait essayer d'enlever les poutrelles, et c'est pas avec des bons hommes circulant à pied entre les bâtiments qu'on pouvait faire quoi que ce soit. Il fallait mettre 5 milliards d'euros sur la table, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, Tchernobyl, les Russes sont intervenus. Bon, on peut insister sur le coût humain, parce qu'effectivement, ils ont utilisé des robots humains, parce qu'il y avait rien d'autre, quoi. Les robots tombaient en panne, ça vous le savez, quoi. Bon, mais à côté de ça, ils ont dépensé une fois des fortunes. Le bilan financier de cette catastrophe est considérable. Bon là, TEPCO, ça vous amène un petit peu face à ce qui se passe lorsque une entreprise qui est axée sur les profits est confrontée à une catastrophe. Il n'y a plus personne. Ils sont là pour engranger des bénéfices, ils sont pas là pour payer. Personne ne veut payer, c'est tout. Donc, personne ne veut payer. Ensuite, une mentalité de dissimulation. Quand on regarde toute l'historique de ce nucléaire japonais, on s'aperçoit qu'ils ont maquillé des rapports, des expertises. Quand il y avait des gens qui constataient qu'il y avait des fissures, on mettait un coup de peinture par-dessus, etc. Quoi. Donc ça, il y a un livre, d'ailleurs, de Stéphane Lhomme, qui l'a écrit en 2006, qui décrit tout ça. Et il va se passer un jour ou l'autre, une catastrophe. Ben, c'était déjà prédit, quoi. Tout était écrit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, on ne sait plus quoi faire. Je veux dire, de toute façon, la société TEPCO disparaît. Et puis, tout à l'heure, il y avait une intervenante qui parlait qui évoquait le pouvoir politique au Japon. Et le pouvoir politique, c'est un peu comme le nôtre, c'est une marionnette. Vous savez, s'il y avait quelque chose de genre en France, n'imaginez pas que le pouvoir politique serait capable d'intervenir, quoi, c'est tout. Il ne se passerait rien, quoi.
Allô ?
Oui, oui.
Bonjour. Je voulais savoir si le corium n'est pas refroidi, qu'il passe sur la centrale et qu'il atteint donc la nappe phréatique, c'est quoi le souci dans ce cadre-là, alors ?
C'est une pollution effrayante. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que on a eu peur très longtemps du nucléaire militaire, mais le nucléaire civil est bien pire. Vous savez bien que dans n'importe quel réacteur nucléaire, il y a l'équivalent de 12, 15, 20 bombes atomiques en matière fissile. C'est la quantité de polluants qui s'y trouvent. Si ça passe au travers surtout si ça s'infiltre simplement dans les fissurations et que ça va dans les soyons, on va avoir une pollution au goutte à goutte, mais qui va un jour il faudra qu'on s'habitue à faire les courses avec un compteur GGR, quoi, c'est tout, dans le monde entier. C'est comme ça. Et alors quand on voit les gens de TEPCO qui parlent de mettre les réacteurs sous sarcophage, tous ces produits radioactifs, ils continuent à chauffer. Ils vont chauffer pendant une centaine d'années. Donc si on met ça sous sarcophage, comment on va faire? Il va falloir ventiler. J'avoue qu'en tant qu'ingénieur physicien, je ne comprends pas je ne discerne pas la cohérence de leurs propos. Je crois que les propos sont incohérents, quoi, c'est tout. Simplement ce que les gens sont en train de découvrir.
Alors, excusez-moi, je voulais vous poser une question supplémentaire. C'était à propos de... Il y a une sorte de projet, alors faut vérifier si mes informations sont bonnes, hein, de faire des centrales sous-marines. Est-ce que le fait d'être sous l'eau, ça permettrait de ne pas contaminer...
Moi, je vais vous donner tout de suite mon point de vue. Je m'en suis déjà ouvert dans d'autres interviews ou un truc comme ça. Bon, ben, je suis physicien des plasmas, je connais bien le nucléaire, etc. Je crois que on doit prendre un virage vraiment sur les chapeaux de roue et abandonner le nucléaire civil complètement, quoi. Et cette histoire de réacteurs sous-marins, mais c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Simplement, c'est la DCNS, vous savez, c'est la construction navale militaire française. Eh bien, elle s'occupait de la maintenance des bateaux de guerre ou de fabriquer des frégates pour les vendre à Taïwan ou ailleurs. Puis maintenant, il n'y a plus de clients. Donc à ce moment-là, on a du personnel, on a des chantiers navals. Que faire? Eh bien, à ce moment-là, quelqu'un a eu l'idée géniale en disant, on va prendre des réacteurs de sous-marins, parce que c'est ça, des réacteurs de sous-marins, et puis on, au lieu de faire naviguer le sous-marin, ben on va faire produire de l'électricité par ce cas. Bon, je crois de toute façon que le nucléaire, en général, c'est dangereux. Hein, on est passé N fois à côté de catastrophes en France.
Je réagissais par rapport à l'océan à côté de Fukushima. J'ai lu que les concentrations d'iode avaient été multipliées par 4300.
Ben oui,
c'est dû à quoi, en fait?
Mais parce que, je veux dire, ce réacteur fuit comme une passoire. Il y a des fissures partout. Et les Japonais, les responsables de TEPCO ont menti. Alors, ils arrosent ces éléments par eau, et puis ils ne récupèrent pas toute cette eau. Elle fiche le camp dans le Pacifique, c'est tout.
Le Pacifique, et ça ne se récupère pas, c'est impossible.
Bien sûr que non, ça se diffuse dans l'iode. Alors comment, en plus, on a fait la connerie de charger le réacteur numéro 3 avec du plutonium, alors là, c'est la fin des haricots, quoi. Le plutonium...
Est-ce qu'il joue pas la montre? Est-ce que, de l'expérience de Three Mile Island, il jouerait pas la montre en disant, de toute façon, la réaction va s'empoisonner avec le béton, vu que c'est composé de sable, et à terme, ça va finir par se refroidir?
Non, attendez, il y a un truc, c'est qu'à Three Mile Island, on n'est pas passé au travers de la cuve, c'est resté dedans. Hein, il n'y a pas eu ce qui se passe à Fukushima, c'est pas pareil. Il y a eu 45% du cœur qui a fondu. C'est vrai que c'était très spectaculaire et que les Américains ont eu très peur. Mais en dehors de ça, l'incident de Three Mile Island n'a rien à voir avec ce qui se passe à Fukushima, rien à voir. Non, là, c'est vraiment très 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 grave, c'est tout. Et jouer la montre, non, vous êtes face à des gens qui sont incapables de réagir, quoi. Ils ne savent faire qu'une chose, c'est à se prosterner devant les populations en demandant pardon. Et puis, prenez par exemple, quand ils ont fait cet arrosage avec de l'eau. Donc, ils ont rempli, ils ont repompé l'eau et ils l'ont mis dans des citernes. Et puis, quand les citernes étaient pleines, quand ils ont eu 10 000 tonnes de flotte, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont tout simplement siphonnés dans la mer, en s'excusant auprès des pêcheurs et des riverains. Bon, il y a une chose qui aurait été préférable de faire, c'est de prendre un vieux tanker, mettre cette eau dedans et aller le couler à 5000 km en mer. Au moins, ce serait tombé au fond. Et puis, il y aurait une diffusion lente de cette eau radioactive. Alors que là, je vous garantis qu'avant de remanger des sushi au Japon, il faudra s'habituer à les manger radioactifs, quoi.
C'est tout un programme. Mais
oui. Attends, je crois qu'il y a Nicole qui veut parler aussi.
Oui, moi, je voudrais vous poser une question concernant le milieu scientifique dans lequel vous travaillez, je suppose. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se dit dans ce milieu aujourd'hui par rapport au nucléaire. Et on n'entend pas beaucoup de voix prendre position clairement.
On n'est pas de voix, mais ils s'en foutent. Vous savez, vous faites énormément d'illusions sur le milieu scientifique. Je reviens d'un congrès scientifique à Biarritz sur les aides-machines. Dans lequel j'ai retrouvé des tas de collègues, je veux dire que c'est pas leur tasse de thé, ils s'en foutent. Vous savez, un scientifique, c'est avant tout un type qui pense à son carrière, à sa carrière, à son petit nombril, c'est tout. Voilà.
Oui, mais je pose la question parce que quand même, il y a quelques années en arrière, il y a quand même des scientifiques, ils n'étaient pas très nombreux en France, il faut bien le dire, mais on les entendait prendre des positions. Il y en a qui ont pris des positions claires contre le nucléaire, qui se sont engagés en première ligne dans la lutte contre le nucléaire. Aujourd'hui, on les voit pas beaucoup.
Non, je crois que cet engagement est un peu passé de mode. Vous savez, en ce moment, moi, je monte un petit peu au credo pour un truc comitaire, et les gens sont complètement désinformés. Ils savent pas que ce réacteur est dangereux. C'est pas ITER qui serait dangereux, c'est son successeur, c'est-à-dire des mots. Parce que dans le réacteur complet, il y a non seulement la chaudière qui permet de faire de l'énergie avec la fusion, mais à l'extérieur, tout contre cette chambre, vous avez une couverture tritigène en lithium, et le lithium, ça brûle comme du magnésium, ça fait des composés toxiques. Vous avez une paroi interne qui est en beryllium, qui est cancérigène, qui est toxique. C'est effrayant, quoi, un truc pareil. Et on envisage de refroidir le réacteur avec un mélange de lithium et de plomb. Alors le plomb, ça donne le saturnisme. Alors je vous dis la chose suivante, et ça, je défie n'importe quel spécialiste d'ITER de dire le contraire, parce que j'ai pas mal discuté avec eux dans les mois précédents. Quand le réacteur, s'il arrive à ce stade, sera opérationnel, il est capable d'exploser. Alors effectivement, vous avez des gens qui vous diront c'est pas dangereux parce que si ça explose, les réactions de fusion s'arrêtent, bien sûr. Mais après, c'est Bhopal ou les grandes catastrophes chimiques qu'on a pu connaître. Quoi. Donc il y a une irresponsabilité dans le monde scientifique donc que vous pouvez même pas imaginer, je pense. Alors même, prenez l'exemple de Charpak et de Balibar, qui étaient contre ITER. Mais ils étaient pour le surgénérateur à neutrons rapides. Ça aussi, c'est de la folie. Je crois que dans le nucléaire, vous avez aussi une chose, c'est qu'on a eu une politique du nucléaire et on voit des sociétés qui voudraient nous fabriquer des EPR alors qu'on ne sait pas quoi foutre des déchets. C'est l'horreur. Vous avez par exemple Areva qui fabrique et qui commercialise du MOX. Alors le MOX, les gens n'ont pas compris ce que c'était. Le MOX, ça veut dire Mixed Oxide. C'est un mélange d'oxyde. Alors on se dit, ah bon, c'est une sorte de nucléaire mixte. Non, c'est de l'uranium-238 et du plutonium. Or, le plutonium, c'est hyper dangereux. Donc le fait de fabriquer et de diffuser dans le monde du plutonium, c'est criminel. Moi, j'ai pas d'autre mot, quoi. Vous avez entendu un scientifique parler contre ça? Non.
Alors, justement, pourquoi les scientifiques n'ont pas réagi comme vous le faites vous et n'ont pas pignon sur rue pour contraindre les États à changer de politique énergétique?
Ou au moins ouvrir une voie vers une communauté internationale pour souscrire de ce genre de problème.
Parce que c'est quand même des gens qui sont censés être intellectuellement supérieurs quand même à la moyenne. Enfin, je sais pas
oui,
trop, mais des techniciens quoi, des gens qui savent, qui connaissent.
Vous savez, il y a une chose, c'est qu'en France, le lobby nucléaire est extrêmement puissant. Et quand on dit lobby, ça passe par une publicité, par un bourrage de crâne absolument inimaginable. Les gens sont abreuvés depuis des décennies d'une sorte de publicité pour le nucléaire. Et prenez par exemple un scientifique qui veut s'opposer à ça. s'il se met à faire un petit peu trop de bruit, son patron lui dira, écoute, si tu veux que ta carrière se déroule normalement, t'as intérêt à mettre ta pédale douce, c'est tout. Hein. Donc, les scientifiques ne parlent pas contre ça, puis ils ont peur pour leur carrière, tout simplement.
Donc vous êtes en train de dire que c'est le principe collectif, c'est le principe particulier qui prédomine sur le collectif, quoi.
Même chez les scientifiques.
Même chez les scientifiques, oui.
Bien sûr, bien d'accord. Sûr. Vous savez, je sais pas, mais...
Oui, je comprends, d'accord.
J'ai pas une grande estime du milieu scientifique que j'ai fréquenté. Il est pareil que les autres, si vous voulez.
Oui, oui.
Il est aussi corrompu, il est aussi lâche, il est aussi veule que les autres milieux.
Oui, bien sûr. Non, mais j'entends.
Je crois que l'erreur, c'est d'idéaliser le scientifique en pensant que c'est un être qui est supérieur aux autres êtres humains. Non, il a exactement les mêmes qualités, les mêmes défauts.
Il existe quand même quelques scientifiques qui sortent du lot. Si on regarde un petit peu l'actualité avec le GIEC, par exemple, on peut supposer qu'il y a une certaine autre vision de la science que celle prônée par le corps actuel. Enfin, si il y a une véritable vision de la chose, d'ailleurs.
Je vais regarder. Moi, je suis... Je reviens d'un congrès. Hein. Les gens qui me connaissent un peu savent que je me suis intéressé à la Z-machine et à ses dérivés. Là-dedans, vous avez une chose fantastique, c'est la perspective de faire une fusion aneutronique, c'est-à-dire une fusion non polluante. Parce que la fusion, c'est deutérium-tritium qui donne hélium et neutrons. Et les neutrons, c'est une catastrophe. En plus, les neutrons de fusion, ils ont à 13 MeV, alors que les neutrons de fission sont seulement à 2 MeV. Donc c'est vraiment très très dangereux, ce truc-là. Alors à ce moment, tout d'un coup, ben, on voit apparaître des expériences qui ont été confirmées au colloque où je suis allé, où on a obtenu plus de 2 milliards de degrés. Or, à 1 milliard de degrés, on peut faire la fusion bore-hydrogène qui ne donne que de l'hélium. Alors à ce moment, on se dit, mais bon sang, cette espèce d'avancée scientifique, c'est l'âge d'or. Eh bien, je peux vous jurer, puisque j'en ai eu la preuve en rencontrant les Russes là-bas à Skolok, c'est que la première chose qu'on fait, ce sont des bombes. Et la course à la bombe à fusion pure est lancée avec les États-Unis et la Russie, tous les deux.
Voilà.
Alors moi, je suis revenu là-bas consterné, c'est tout.
Bon, ça promet.
Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir aujourd'hui en France du nucléaire tout de suite, monsieur Ketterson?
Oui. Il y a une chose que les gens ignorent totalement parce qu'ils ont été désinformés un maximum, ce sont les capacités fantastiques des énergies renouvelables. Prenez par exemple le solaire, vous avez le solaire thermique que oui. Nathalie Kosciusko-Morizet semble ignorer totalement. Vous avez, enfin je vais peut-être vous surprendre, et vous le verrez trouver sur Internet, vous verrez qu'Areva a une filière qui s'appelle ArevaSol, et qu'ils sont en train de finaliser la construction d'une installation de dizaines de mégawatts solaires thermiques en Australie. Vous avez Total qui finalise aussi, je crois même que c'est déjà fini, une installation de 100 mégawatts aux Émirats Arabes Unis. Il n'y a que nous qui avons droit au nucléaire. Et c'est extraordinaire.
C'est presque drôle, excusez-moi de rire, mais...
Peut-être, est-ce qu'on peut préciser la différence entre photovoltaïque et solaire thermique? Parce que photovoltaïque, c'est une vaste merde avec des polluants à tout bout de la chaîne. Et...
Exactement. Bon, le photovoltaïque, effectivement, ça présente des défauts. Tandis que le solaire thermique, regardez, vous allez sur Internet, vous cherchez Andasol. C'est par exemple le projet espagnol. Dans le projet espagnol, vous avez un endroit où il y a de la place, des hectares, ça c'est pas ça qui manque, hein, sur un plateau bien ensoleillé. Et puis là, vous avez des miroirs paraboliques. Et des miroirs paraboliques qui font, 6, 7, 8 mètres de large, sur 300 mètres de long. Et ça, ça focalise sur un tuyau central dans lequel il y a 500 degrés. Et avec ces 500 degrés, il y a un échangeur. Avec cet échangeur, on fait de la vapeur. Et après, ce qui se trouve derrière, mais c'est exactement la même chose que ce qu'il y a derrière un réacteur nucléaire. Seulement, au lieu de faire l'énergie de manière dangereuse et compliquée avec le nucléaire, on l'a fait avec le soleil. Et le soleil, ça ne plaisante pas, ça vous fait 500 degrés, c'est tout. Voilà.
Et d'accord, mais est-ce que ça peut couvrir la totalité du territoire français comme le fait le nucléaire avec ses 58 réacteurs extrêmement dangereux là?
Alors justement, là, il y a des questions très intéressantes qui sont soulevées, c'est le transport de l'électricité. Hein. Alors, effectivement, je dirais que dans le domaine des énergies renouvelables, on a été
très gêné, enfin moi je me suis trouvé très gêné par les gens qui étaient un peu pour la décroissance, c'est-à-dire les écologistes barbus qui disaient qu'il fallait vivre en autosuffisance. Non, pas du tout, il y a les deux. D'une part, il faut faire des bâtiments qui soient mieux conçus pour faire des économies d'énergie. Ensuite, il faut qu'il y ait des productions locales d'énergie, mais ensuite il faut qu'il y ait des gros machins, quoi, c'est tout, qui sortent des milliers de mégawatts, et c'est faisable.
C'est donc, cette émission se termine, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres sur la question, parce que le nucléaire malheureusement n'est pas terminé, ça va encore durer des milliers d'années. Il y a encore des... Non, je... Mais nous sommes encore pour l'arrêt immédiat des centrales nucléaires, voilà, en France, et toujours en été.
Paris Pluriel 106.3.